Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de Patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre-à-terre, dynamique et passionnée. Disponible et transparent, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, placement, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété, s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier. Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 100e épisode du podcast Le Temps d'arrêt. Avant de parler de la formule pour aujourd'hui, de ce qu'on a préparé pour vous, j'aimerais dire un merci tout spécial à mes collaborateurs qui ont passé à une ou plusieurs reprises sur le podcast. J'aurais pas pu atteindre le chiffre quand même assez important de 100 sans vous. Donc, c'est merci beaucoup de rajouter beaucoup de précision, d'analyse, de crédibilité au podcast. C'est très apprécié. Merci surtout aux auditeurs, ceux qui écoutent de manière occasionnelle, d'autres régulières. Merci surtout à ceux qui manquent pas un épisode. C'est pour vous que je fais ça. Je vous partage ma passion puis ça me fait vraiment un très, très grand plaisir que vous embarquiez avec moi dans ce beau projet. Et finalement, un merci à notre commanditaire, là, Jordan Lanoux et le groupe de IG. On apprécie vraiment, vraiment votre support et votre collaboration. Pour ce 100e épisode, on change un petit peu de la formule habituelle. Je voulais faire quelque chose de différent. Je me fais plaisir à moi aussi. Ce sera davantage une entrevue que la formule habituelle où on échange sur certaines connaissances communes. Aujourd'hui, je vous partage une aventure extraordinaire, celle de mon ami de longue date, Carl-Éric Blanchet. Carl-Éric, ça va bien?
Oui, ça va. Et toi?
Ça va super bien. Merci beaucoup de te joindre au podcast. Tu habites, avant tu étais résident du Québec, c'est de là qu'on s'est connus. Tu habites maintenant sur l'île de Vancouver. Aujourd'hui, il sera question d'une randonnée extraordinaire que tu as faite au printemps passé, la Pacific Crest Trail, une randonnée qui relie le Mexique au Canada en traversant toute la côte ouest américaine. Tu es présentement en train de documenter toute ton expérience. Ça se retrouve sur ta chaîne YouTube. C'est marqué justement dans ton caption, là, sur le nom qui est sous ton écran, Carl Blanchet. Des vidéos extraordinaires que tu nous présentes depuis déjà quelques mois. Parle-nous un petit peu de cette publication-là et de toute cette expérience-là de manière globale avant qu'on y rentre en détail, là.
Bien, premièrement, je veux te remercier pour m'accueillir sur le temps d'arrêt.
Ça fait grand plaisir.
Spécial, puis ça me fait honneur de pouvoir célébrer ta 100e épisode. C'est vraiment cool. Donc, je te remercie pour me recevoir.
J'apprécie, merci.
Partager cette aventure entre nous deux et entre tout le monde autre qui écoute. Donc,
merci. Ben oui. Aujourd'hui, dans le fond, ce que je veux faire, ce que je veux partager aux gens, c'est pour ceux qui n'étaient pas familiers avec tes vidéos, c'est un petit peu se lancer dans cette aventure-là, là, de nous faire vivre les gens de manière le plus précise possible, tout ce que tu as vécu dans ces quelques mois de randonnée. Et c'est important de mentionner qu'aujourd'hui, on va faire un bon franglais. Là. Ça fait longtemps que tu as quitté le Québec, ton français est encore super bon. Mais on va vraiment y aller de la manière la plus familière possible pour que la discussion soit la plus fluide. Donc, on va se permettre certaines expressions en anglais, évidemment. Puis, j'aimerais commencer la vidéo, la conversation d'aujourd'hui avec un avant-goût d'un de tes épisodes. On est rendu déjà là, à une vingtaine d'épisodes sur YouTube. J'en ai ciblé un qui montre particulièrement l'essence de ce que tu vis sur de ce que tu as vécu lors de cette formidable randonnée sur la PCT. Donc, je partage l'épisode 20 de ta chaîne YouTube. Et pour les gens qui ont jusqu'à présent été davantage en écoute sur Apple Podcasts ou Spotify, pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous conseille de faire la transition sur YouTube. Ça vaut la peine. Il va y avoir des effets visuels à couper le souffle. Donc, on commence ça tout de suite avec justement l'avant-goût d'un épisode que tu as présenté sur ta chaîne.
Yes, allons-y.
Welcome to the Sierra Nevada Mountains. After 25 days on the Pacific Crest Trail, I am finally entering the Sierras. This section is the heart of the trail, where the rugged beauty of the high alpine promises to challenge and inspire me in so many ways. These mountains are legendary. Towering granite peaks, pristine alpine lakes, and endless wilderness stretching as far as the eye can see. The Sierra feels like the crown jewel of this entire adventure, and the thought of traveling through such a majestic and wild landscape fills me with excitement. But with that excitement comes a fair share of nervousness. The snow is here now, and with it, a whole new set of challenges. There's so much I don't know about what lies ahead. Will the entire trail be snow-covered? Will the rivers be raging with water? Will snowstorms roll in? How cold will the nights get? And will I be ready for the mountain passes and high elevation that the Sierra is known for?
Donc, tous les belles questionnements que tu as présentés dans l'introduction de cette vidéo, ben, tu y réponds durant le cours des différents épisodes, et particulièrement, justement, il était question ici de ton parcours dans les Sierra. On en reviendra aussi. J'aimerais commencer la conversation avec une question bien simple. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir accomplir cette randonnée qui s'étend de 2650 miles ou encore de 4264 kilomètres? Pendant que tu y réponds, je vais présenter un petit peu sur l'image la randonnée qui s'étend justement de la frontière du Mexique jusqu'à la frontière canadienne. Donc, 4264 kilomètres. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir accomplir ça?
Bien, pour moi, j'ai toujours vraiment été intéressé à la marche, puis le camping, puis toutes ces affaires-là dans la nature. Donc, c'était un peu naturel de vouloir éventuellement me lancer sur cette aventure grandiose qui traverse les États-Unis. Ça faisait au moins 6 à 8 ans que je l'avais en tête, mais je me suis jamais vraiment lancé pour y aller. Et l'an passé, j'ai perdu ma tante qui était amateur d'aventure. Et dans ces derniers moments, c'est assuré de vraiment me pousser à poursuivre mes rêves les plus gros que je pouvais m'imaginer. Et ça m'a pris quelques mois pour atterrir sur la Pacific Crest Trail. Mais éventuellement, c'est là où j'ai atterri, et ça, c'est l'aventure que je voulais faire en son honneur. J'ai jamais pu pouvoir partager avec elle cette idée, mais c'était vraiment spécial de pouvoir processer son départ sur le long de ce trajet et
Est-ce que justement... Tu as eu le temps d'y penser beaucoup. Est-ce que ce 4264 kilomètres, la traversée des États-Unis, tu voulais le faire en pensant à ta tante, mais est-ce que c'est des chiffres qui te faisaient peur? On parle quand même d'un très grand nombre de kilomètres. Est-ce que c'est quelque chose que tu anticipais, que tu avais un peu peur de, ou tu vraiment te fais face à ce défi-là, là, les deux, comme... vraiment avec le vent dans le dos, puis tu t'es lancé là, vraiment de plein fouet. Là.
Je vais t'avouer, avant de commencer, j'étais très motivé. Et moi, je pensais que ça allait être un piece of cake, comme on dit en anglais. Super facile. Je vais être dans la nature, je vais hiker, je vais camper, tout ce que j'aime. Donc, regarde, moi, je m'attendais que ça allait être... que du bonheur, mais...
ça a été des ups and downs.
À la fin, c'était vraiment une expérience très similaire à la vie. C'est un peu un roller coaster. On a beaucoup du up and down. Et c'est juste de pouvoir persevere, comme on dit, à travers des moments difficiles et de faire le plus que tu peux avec.
C'est une belle analogie de dire que justement, c'est un reflet de ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, de la société qui est, où c'est pas toujours tout beau. Il y a des bons moments, il y en a des moins beaux. En partant, tu t'es donné comme objectif de terminer la randonnée au maximum 90 jours. Pour donner une idée aux gens, là, la moyenne des gens qui complètent le PCT, le Pacific Crest Trail, le fait en 5 mois. Donc, pour le réussir en 90 jours, c'est un petit peu plus que... on parle d'environ 48 km par jour. Pourquoi est-ce que tu t'es donné un tel défi? Et pour ceux qui ont suivi ton épopée ou qui vont le suivre sur YouTube, on se rend compte que parfois, ça t'a mené à des journées où tu commençais à marcher à 6h30 et tu terminais à 10h. Donc, pourquoi t'être donné un challenge qui était aussi important, si on veut, là?
J'ai toujours été intéressé à pousser mes limites. Donc, quand j'ai pensé à la Pacific Crest Trail, j'ai vu qu'il y avait du monde qui complétait ça en 100 jours, du monde, comme on dit, des athlètes qui complétaient ça en 100 jours. Il y avait quelques-uns qui essayaient de compléter ça en 90 jours. Malgré qu'il y a du monde qui complète aussi en 46 jours qui est là.
J'ai vu ça en 2 mois, c'est fou.
Incroyable. Mais c'est de façon différente. Cette façon-là est supportée, donc ils n'ont pas de sac à dos, il y a quelqu'un qui fait leur nourriture, qui transporte leurs affaires, tandis que moi, je transportais tout ce que j'avais pour vivre sur moi.
Donc, tu reliais seulement sur toi là, pour tout compléter ça. Là.
Mais c'est ça, je ne voulais pas que ce soit facile. Pas que je m'attendais que ça allait être facile, c'est quand même une grosse aventure, mais je voulais vraiment pas être là pour relaxer, mais vraiment être là pour me pousser et vraiment creuser entre moi et dans moi, dans mes pensées, pour vraiment apprendre le long du trajet et voir ce qui était possible.
Ça amène vraiment à des journées, des épisodes qui sont intéressants, passionnants. Lors de ton dernier épisode, le 20e, tu as justement fait une journée de 44 miles. Donc, ça, pour donner une idée, c'est plus que c'est plus que deux marathons complets un après l'autre. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand j'ai regardé ça avec ma copine Véro, dans le bon sens, elle disait il est malade de faire autant dans une journée. Ça montre pour vrai tout l'exploit que tu as accompli. C'est extraordinaire.
Je vais te corriger un petit peu. C'est pas tout à fait deux marathons. C'est proche. Je pense que deux marathons, ça serait 84 km, tandis que 44 miles, ça revient à 70,4 km.
OK. Oui, absolument, parfait. Mais on était quand même à un marathon et demi, c'est pas rien dit. Lorsque tu as commencé tout ça, quel niveau de préparation tu avais là, au niveau de... tu as parlé un petit peu du nombre de temps que tu y pensais, mais vraiment pour te préparer, combien de temps ça t'a pris, les matériaux que tu avais besoin, le budget aussi, parce qu'on voit le long de tes épisodes, on voit... C'est fait de manière très interactive, c'est très réussi. On voit le nombre d'argent que tu mets depuis ton départ augmenter. Combien de budget tu avais pour partir aussi longtemps? Là, et mais c'est aussi dans les préparatifs de devoir faire face à plusieurs types d'environnements. Tu as été dans le désert de la Californie, tu as été dans les montagnes enneigées des Sierra Nevada, tu as été dans les vastes forêts de l'Oregon. Comment c'était de se préparer à tous ces niveaux-là là? Pour une aventure aussi formidable?
Mais pour ma préparation, je n'ai pas décidé que j'allais le faire avant peut-être quelques semaines avant mon départ. Donc, en termes de préparation physique, disons que j'avais seulement quelques semaines pour faire la marche le plus souvent que je pouvais pour réveiller mes jambes, disons. Ensuite, c'est quelque chose que je recommande pas nécessairement. Si quelqu'un est pour se lancer sur quelque chose comme ça, je recommanderais de mettre le plus de préparation physique possible parce que j'ai fini par me faire pas mal de blessures au début à pousser les ouais. distances que je faisais parmi les ampoules et d'autres choses comme ça. Mais en termes de budget, je veux dire la moyenne qui a été calculée par un sondage qui est fait chaque année. Et le budget est 10 000 $ US par personne que quand moi, il n'y avait aucune façon que j'allais dépenser autant que ça. Non. Donc, un autre de mes objectifs au-dessus du 90 jours, c'était de compléter la trail à dépenser le moins d'argent possible.
Le moins possible.
Donc, ça, c'était un autre objectif. Par exemple, il fallait que j'achète quelques items pour comme équipement avant de me lancer. Et tout ce que j'achetais, incluant ce chandail, c'était
ouais. en rapide. Qu'on a vu souvent et qui est surtout plus propre maintenant qu'à certaines reprises lors de ton périple.
Je veux dire, il est pas mal moins écrouté. Il a ouais. l'air de fourrer un peu plus que quand je le portais sur la trail où il se
tenait. C'est sûr. Pendant qu'on voit justement une image de toi qui était, on voit la frontière, le mur américano-mexicain. Donc, c'était le point de départ de ton PCT. On voit derrière toi là, un sac à dos quand même assez massif avec un matelas. Quels étaient les principaux éléments que tu as amenés avec toi dans ton sac à dos pour cette longue randonnée-là?
Donc, je pense que le plus important, comme on les appelle les big three, ce qui est la tente, le sleeping bag et tente, sleeping bag, sac à dos, peut-être.
Sac à dos. Ton filtreur d'eau, je pense que c'est assez essentiel aussi. Hein, pour.
Ouais, parmi beaucoup d'autres affaires, très essentielles. Mais disons que la tente, pour moi, j'ai choisi une tente qui est faite de Dyneema, qui est un matériel très léger, par Durston, ce qui est une compagnie canadienne aussi. Donc, j'étais content de pouvoir supporter ça. C'était la Durston X-Mid 2 Pro. Ensuite, un sac à dos, c'était Hyperlight, un sleeping bag de Down, donc aussi léger. Après, comme tu dis, il y avait le filtreur à eau, il y avait mon matelas que tu pouvais voir sur mon sac à dos qui était une très mauvaise décision à choisir, un petit matelas de foam
ouais.
demi-pouce comparé à un matelas gonflable. Je me suis dit, je vais pouvoir sauver 100 grammes. 100 grammes, là, c'est même pas une affaire de AirPods. Puis j'ai fini par pas dormir plus que 4 heures parce que je me réveillais avec l'épaule qui semblait disloquée à peu près 30 fois par nuit.
C'est d'être le plus léger possible, mais de quand même avoir un certain confort pour te permettre de marcher le plus longtemps possible.
C'est donc, sûr.
Je vais présenter un petit vidéo. Là. Il y a un lien, vous allez voir le lien avec un des éléments que tu viens de dire, Carl-Éric. Je présente la vidéo puis on en parle après. Là. Alors, pour ceux qui sont malheureusement uniquement en audio, c'était un vidéo exclusif sur lequel on a pu mettre la main, sur lequel ben, t'es couché et puis il y a un animal qui est vraiment là, à 2 pouces de toi qui est en train de se nourrir au ras le sol et à un certain point, il te regarde, un petit cerf, là, donc c'est sûr que ça devait pas. On ne parlait pas d'un ours ici, mais quand même, la proximité rendait la chose intéressante. Et ce que tu étais en train de faire, là, c'était du cowboy camping, qui a beaucoup été question dans dans tes vidéos. C'est le fait de dormir ben, à la belle étoile, donc sans te servir de ta tente. Et ça a été une question que je me suis longtemps posée lors du visionnement de tes épisodes. Pourquoi est-ce que tu aussi régulièrement tu faisais du cowboy camping alors que tu avais ta tente. Et ça menait, ça a probablement mené justement à des moments qui étaient assez inusités, uniques, d'avoir des animaux aussi proches, mais un peu inquiétant aussi d'être un petit peu moins, d'être un petit peu plus à la merci justement de ce genre d'événement-là. Là. Donc, pourquoi autant de cowboy camping?
Définitivement, le moment qu'on vient de voir sur l'écran, c'était un moment très mémorable sur la trail. Puis pas mal spécial, je veux dire. Moi, j'avais jamais fait de cowboy camping avant de me lancer sur la PCT. Et c'est quelque chose que j'avais lu à propos pas mal avant d'y aller. Tout le monde en parle, cowboy camping, surtout dans le désert, majoritairement dans le désert parce qu'il fait chaud, c'est sec, il pleut jamais. Donc, c'est moi, la raison pourquoi j'ai vraiment tombé amoureux de ce type de camping, c'est la facilité. C'est de pouvoir, à la fin de la journée, quand tu es complètement épuisé, tu en as pas mal ras-le-bol, puis tout ce que tu veux faire, c'est te coucher et de manger. La chose la plus facile pour moi, c'était
de juste lay down, puis c'est facile.
Mettre mon matelas et hop, mon camp était seté. Je me couchais dans mon sleeping bag. That's it, je me mettais à manger le plus de nourriture que je pouvais et je pouvais m'étendre pour le reste de la soirée.
Mais il y a eu certains setups que tu as fait qui étaient assez réussis. Là, j'en ai un en tête dans lequel tu t'es fait un mur de roche et un petit feu aussi là, entre le mur, donc tu devais rester au chaud. Parfois, ça a été un petit peu moins évident. On pense à un certain soir où tu t'es fait arroser par des sprinklers alors que tu dormais dans une ville avant de regagner la trail. Donc, ça a des points positifs, mais des points négatifs aussi, j'imagine.
Définitivement. Le moment avec les sprinklers, ça en était un qui est pas mal traumatizing, je veux dire. Parce que, regarde, c'est sûr, avant de se lancer dans une autre grosse journée dans les rocheuses à 12 000 pieds d'altitude, la dernière chose que tu veux, c'est te réveiller complètement mouillé, ce qui était le cas cette nuit-là.
Ça a dû faire quand même une anecdote assez drôle aussi. Là.
Je veux dire, c'était bon pour l'histoire, mais c'était difficile. Ouais,
en réalité, ça devait être moins le fun. Je voulais savoir, là, quels sont tes... Le sentiment d'entreprendre une telle aventure seule. Lorsqu'on regarde justement toutes tes vidéos, on remarque que tu en es venu à partager les sentiers avec certaines personnes. On pense ici à Sparrow, qui est un Québécois que tu as rencontré au début de ton parcours, à Lost Boy, mais surtout à Mello, avec qui tu as fait une bonne partie des Sierra. Pour ceux qui n'avaient pas compris, non, ce ne sont pas les vrais noms de tous tes partenaires. On en viendra à ton surnom, à toi aussi. Beaucoup de randonneurs se donnent justement des surnoms spéciaux. Donc, voilà un petit peu la signification de ces noms-là. Donc, comment te trouver ça, se déplacer seul par rapport à être avec un partenaire qui pouvait partager tes journées avec les ups and downs là?
Donc, oui, moi, je me suis lancé sur l'aventure seul, mais c'était toujours, j'avais toujours l'espoir de pouvoir rencontrer quelqu'un qui allait bouger à la même vitesse que moi, parce que c'est sûr que traverser des moments difficiles, c'est toujours plus facile avec d'autres personnes, même si c'est juste un regard que tu peux faire ensemble, puis pouvoir savoir que, ouais, you just went through it together. Mais c'est arrivé quand même difficile à pouvoir trouver du monde qui allait de la même vitesse que moi. Mais j'ai été super chanceux. Il y avait le deuxième jour où je suis tombé sur Rich, un homme de 70 ans qui, pendant 3 jours, a fait la même distance que moi, qui était 25 000, 27 000 et 27 000 encore. Donc, des grosses journées de 40 kilomètres. Donc ça, c'était un moment pas mal spécial. Et ensuite, c'était pas avant le 8e jour que j'ai pu rencontrer par hasard Sparrow, qui est arrivé de nulle part et qui m'a dépassé. Et lui, il était sur un attentat de faire le Calendar Year Triple Crown, qui est la Appalachian Trail, la Continental Divide Trail et la Pacific Crest Trail, qui totale à peu près 7000 miles en un an.
C'est fou.
Et j'ai fini par le rattraper. Parce que j'ai vu qu'il allait vite, je me suis dit, OK, lui, je ne le perds pas. Et on a fait quelques jours ensemble aussi.
Fait que ça a fait du bien parfois de te retrouver avec quelqu'un justement pour les soirées, pour décompresser, pour pouvoir jaser avec quelqu'un. Autant que des fois, par moment, ça a dû être bien d'être seul puis de pouvoir justement penser à diverses choses que parfois le temps pouvait être long en étant par toi-même, mettons.
C'est vrai. Je vais me corriger, c'était le 5e jour jusqu'au 8e jour que j'ai passé avec Sparrow. Okay. Et après ça, j'ai passé du 8e jour jusqu'au 23e jour seul. Et là, je faisais des distances de au moins 50 km par jour. Donc, les journées sont longues et tu n'as pas vraiment de choses pour te distraire. Donc, c'est pas mal d'affaires qui se répètent dans la tête, pas mal
ouais,
la journée.
Ça doit,
hein? Une toune énervante qui se pogne dans tes pensées, je te dis, tu la gardes pendant une semaine. Puis, elle est là, puis elle t'énerve. Donc, quand j'ai pu rencontrer Mello à Kennedy Meadows le 23e jour, c'était vraiment l'ami que j'avais besoin à ce point-là. Ça, j'étais déjà dans un lot pas mal sévère où je me disais « Just get to Kennedy Meadows et après, considère si tu veux vraiment prendre un break ou pas. » Là,
ouais.
Donc, rencontrer quelqu'un puis avoir cette motivation, quelqu'un à suivre, ça m'a vraiment aidé. Puis on a passé, je pense que c'était 2 semaines ensemble, presque 2 semaines. Donc ça c'était vraiment le fun, avoir un ami, même développer un brotherhood avec
ouais.
des comme ça.
J'imagine que c'est des liens ouais. qui doivent rester aussi là, le plus en contact avec ces gens-là par après, ça reste spécial. Là.
Définitivement. On a vécu des choses ensemble et on a l'opportunité d'en parler puis de vraiment de se rappeler de quelques petites affaires.
Ouais.
Donc, c'est vraiment cool.
La photo qu'on voit en ce moment, que vous pouvez retrouver aussi, c'est la photo que sur ta page de Carl Blanchet. Là, c'est ta photo de couverture. Ça a été prise par... qui est extraordinaire, là, cette photo-là. Donc, on est... une moitié dans un environnement désertique avec les montagnes au loin. Ça a été pris par Spilly Billy. Qui est Spilly Billy? Non, ce n'est pas quelqu'un de connu. C'est normal que les gens ne le connaissent pas. Mais c'est quelqu'un qui a marqué particulièrement ton aventure. La première partie de ton aventure, à tout le moins, c'était un Trail Angels. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens ce qu'étaient les Trails Angels qui ont été si importants à certains moments de la faute de ton parcours? Et justement, Spilly Billy était un de ceux-là. La photo que j'ai présentée, c'est lui qui offrait aux randonneurs justement de prendre des photos gratuitement. Donc, parle-nous un petit peu de ce qui était les Trail Angels.
Donc, les Trail Angels, c'est du monde qui des bénévoles qui offrent leur temps et leurs ressources pour pouvoir aider les randonneurs le long de la Pacific Crest Trail et autres sentiers aussi. Mais c'est du monde souvent qui ont fait la trail dans le passé ou okay. qui aimeraient faire la trail dans le futur ou qui en rêvent, mais qui peut-être peuvent pas le réaliser
ouais.
nécessairement parmi beaucoup de raisons. Donc, ils vivent un peu vicariously.
Ouais.
Les aventures des randonneurs en pouvoir leur donner du support. Et ce support vient en toute forme, que ce sera de l'eau, des collations, de la nourriture, des rides de la trail à la ville pour pouvoir faire notre resupply, acheter plus de nourriture.
Et justement, en lien avec ça, comment est-ce que les gens dans les petits villages vous percevaient? On ne va pas se mentir, là, vous arriviez, vous étiez probablement pas très au plus propre de votre capacité. J'imagine que les gens sont habitués d'avoir des randonneurs avec leur gros sac arrivés dans le village. Est-ce que vous étiez pour la plupart du temps bien accueillis et bien perçus, là?
Très souvent, on était super bien accueillis. Le monde était tellement chaud parce que, comme tu dis, ils étaient habitués au monde qui arrivait crotté, fatigué, à avoir la faim la plus grosse que tu peux imaginer. Rentrer en ville et regarder pour la place à pizza la plus proche. Mais la majorité des villes, ils étaient « hiker friendly », comme on appelle.
OK, ouais.
Et ils étaient très « welcoming ». Et puis, c'était vraiment le fun à voir. Il y avait toujours quelqu'un qui te demandait directement. Il savait d'où tu venais. Il savait qu'est-ce que tu faisais. Il disait « What day are you on? » You know, how's it going? The food's that way, you know, toutes ces affaires-là. Donc,
ouais, ça devait rajouter un sentiment un petit peu d'aide et de facilité quand vous en avez besoin, justement, quand ça fait plusieurs jours que tu manges de la nourriture froide, une bonne pizza ou un bon burger, c'est tout ce que vous avez besoin, puis que les gens facilitent justement tout ça, ça rend ça vraiment agréable, j'imagine.
Définitivement. Il y avait une très grosse communauté qui entourait la trail et c'était vraiment spécial. Je n'avais jamais vu ça autre part. Autant de monde qui s'entraidait pour pouvoir aider d'autres à compléter cette aventure.
Non, depuis le début de l'épisode, il y a souvent des questions des Sierras. Mais c'est la chaîne de montagnes des Sierra Nevada qui est principalement dans le nord-est de la Californie, là, qui est comme mentionné dans le vidéo présenté tout à l'heure, selon toi, c'est le cœur de la PCT. Pendant que je présente quelques photos que tu nous as envoyées qui sont à couper le souffle, parle-nous un petit peu justement des points de vue là, que tu as eus dans la PCT, que ce soit, pas dans la PCT, de la Sierra. Donc, certains des images comme celle-ci, là, parle-nous des points de vue à couper le souffle là, dont tu as été témoin. Là.
Celle-ci, par exemple, ça, c'était en Oregon, je pense, juste pour corriger. Dans les Sierras, cette même plaine aurait été remplie de neige et tu aurais marché à travers ça avec la neige rendue au jour.
Comme ici, environ.
Ça, c'est plutôt les Sierras couvert de neige, mais je te dis, les vues et les vistas étaient incroyables, à couper de souffle chaque coin de tour de la trail. Et on traversait beaucoup de mountain pass. Donc ça, c'est la chose
majoritaire
des Sierras, c'était les mountain passes qui, la plupart, étaient entre 10 000 jusqu'à 13 200 pieds d'élévation. Donc, tu te rendais à des endroits vraiment au milieu de nulle part où tu ne voulais pas tomber. Mais c'était incroyable à pouvoir être là et pouvoir passer autant de temps dans ce paysage si incroyable.
Et comme les gens ont pu constater, là, des chaînes de montagne à couper le souffle. Mais comme tu as mentionné, je pense qu'on peut résumer ton séjour dans les Sierra par le fait que tu as été mouillé. Hein? Mouillé de différentes manières et tu as traversé plusieurs difficultés. Je vais les résumer ainsi. Ce n'était pas toujours possible pour toi de traverser des ruisseaux sur des ponts ou des branches d'arbres. Il fallait parfois traverser des courts ruisseaux, mais parfois les ruisseaux ils étaient profonds, il y avait du courant. À une reprise, tu en as eu là, jusqu'à la poitrine. Autant de points d'eau à traverser à cause de la période de l'année, j'imagine, de la fonte des glaces. Est-ce que par après, ça t'a fait te dire que tu aurais peut-être dû repousser de quelques semaines, quelques mois pour être un petit peu plus au cœur de l'été? Parle-nous un petit peu justement de tous ces ruisseaux-là que tu as eu à traverser dans les Sierras.
Donc, le Sierra est pas mal fameux pour les river crossing. C'est quelque chose que tu t'attends avant d'y entrer et qui est vraiment parlé à propos parmi les randonneurs et les Trail Angels, c'est de se préparer pour ce qui arrive. Parce que ça peut être très dangereux ou juste comme ça, tu glisses et tout d'un coup, tu pars dans la rivière, tout ton équipement est mouillé.
Pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos, tu ne peux pas enlever tes souliers et tes bas à chaque fois. Il y en a trop, j'imagine. Tu perdrais trop de temps. Donc, il fallait que tu les traverses en souliers.
Par jour, des fois. Donc, enlever ses souliers chaque fois, ça prendrait un extra 15 minutes à chaque reprise et ça te met en danger aussi à traverser des ruisseaux très rocheux au fond.
Du pied, oui.
Si tu glisses et tu peux te couper le pied ou te casser un orteil tellement facilement que ça te repousserait de devoir ressortir de la trail et de ne pas pouvoir compléter ton aventure. Donc, fallait garder ses souliers et tu finissais à avoir les pieds mouillés toute la journée pendant la durée des Sierras qui était, je pense, 17 jours pour moi et la neige continuait après ça. Donc, j'ai eu des pieds mouillés pendant au moins 3 semaines de suite. Donc ça, c'était pas facile. Disons que malgré comment tellement beaux les Sierras étaient, c'était la section la plus difficile physiquement et mentalement.
Mentalement aussi, oui. Donc, les pieds mouillés à cause des ruisseaux, mais aussi tu devais faire face, on a vu là, les montagnes, tu étais dans des altitudes très, très, très hautes. Tu as dû faire face à du froid, tu as dû beaucoup marcher dans la neige. Et il faut dire que à ce moment-là de l'année, justement, la neige, en après-midi, elle était plus molle que, j'imagine, en plein cœur de l'hiver. Donc, la neige, à cause du soleil qui se réchauffait, on se rapprochait de l'été, la neige fondait un petit peu, on l'a vu avec les courants, mais la neige était surtout molle, donc tu renfonçais régulièrement en après-midi. Donc, deux problèmes, le froid et la neige auxquels tu as dû faire face, qui étaient quand même des problèmes importants. Là.
La neige était mon plus gros némésis sur l'hiver, je veux dire. Il n'y a rien qui m'a
autant atteint.
Autant que la neige, parce que, en effet, au début, quand j'ai commencé les Sierras, tu avais jusqu'à 10 heures du matin où la neige était encore croûtée, où tu pouvais juste marcher au-dessus. Mais dès que 10 heures et plus tard 9 heures du matin arrivaient, c'était mou et tu calais à chaque 3 pieds, tu glissais, tu tombais, tu étais à ça de te casser la cheville à chaque 7 pas. Donc, c'était un gros challenge, en effet. Et tu disais tantôt que peut-être attendre plus tard dans la saison.
C'est ce que j'allais demander, oui.
Pour pouvoir traverser les rivières, mais oui, tu aurais moins de neige, mais en retour, tu aurais plus d'eau parce que la neige coule. Ouais. Donc, il faut vraiment que tu trouves le sweet spot. Il y a toujours quelque chose qu'il faut que tu deals avec, que ce soit la neige, l'eau ou les feux plutôt plus au nord. Donc, si tu commences un mois après la date que moi j'ai commencé, le 27 avril, le monde qui a commencé un mois plus tard ont dû parcourir des détours, mais énormes.
Pour éviter les feux.
Oui, ils doivent le faire en voiture. Donc, il manque des grosses sections de la trail qui vont devoir revenir pour les compléter. Parce que malheureusement, chaque année, l'Oregon et Washington tombent en feu de partout. Et même moi, j'ai dû manquer une petite section au nord, malheureusement. Mais c'est trouver le sweet spot.
Si tu commences c'est ça, plutôt, c'est tricky un peu d'avoir... Comme tantôt, il y a des points positifs à partir un petit peu plus tard. Il y a des points négatifs aussi. Donc, c'est l'équilibre est important. Puis, je pense que tu en as trouvé un bon... Même si tu as dû faire face à beaucoup de neige, heureusement, où tu vis sur l'île de Vancouver, il n'y en a pas. Donc, tu n'as pas. Tu as eu une petite pause de neige pour quelques temps, j'imagine.
Oui, on a été chanceux. Ici, c'est clair, cet hiver, on a eu seulement peut-être une semaine et demie, deux semaines où il y a eu de la neige et là, on est de retour au beau gazon vert. Je suis sorti de la Pacific Crest Trail à détester la neige. Là, je suis content que je ne retournais pas au Québec et que je savais que l'hiver qui s'en venait après allait être pas mal doux, disons.
Je voulais te demander comment, je me suis beaucoup demandé comment tu faisais pour bien gérer ton bien-être dans la nature. Et j'ai placé ça dans trois différentes catégories, trois différents problèmes qui ont pu survenir pour toi. Premièrement, problème au niveau psychologique. Donc, de perdre la motivation. Comment est-ce que tu faisais après des journées difficiles? Tu l'as dit, tu as pensé à ta tante aussi beaucoup. On l'a vu dans un épisode qui était un petit peu plus consacré à ça. Mis à part cet élément-là, comment tu faisais pour te dire « je continue » au lieu de juste dire « ben je prends un taxi, je m'en vais à l'aéroport le plus proche puis je retourne à la maison ». Comment tu faisais pour traverser ces barrières-là? Là?
Ça, c'est vraiment dur à décrire parce que c'est un...
C'est mental, oui.
C'est un mental battle qu'on doit vivre en soi-même. Donc, c'est dur à expliquer. Il n'y a vraiment pas de façon, sauf le commitment de pouvoir te rappeler que, regarde, t'es ici, c'est difficile, tu as mal, t'es fatigué. C'est pas pour toujours. Éventuellement, tu vas te rendre à la fin, tu vas pouvoir te reposer. Donc, peut-être c'était ça. Moi, c'est après un certain montant de kilomètres que j'avais fait, j'ai fait ça. Il n'y a aucune façon dans le monde que je ne vais pas finir ça. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour manquer ça.
Ah, c'est bon.
C'est juste de me rappeler ça.
Des problèmes physiques aussi dont il y a nettement été question, que ce soit dans le début de ton parcours avec les nombreuses ampoules aux pieds que tu as eues, mal au corps à cause du poids du sac, épuisement physique à cause de la tâche. Ton corps, à un certain point, était, on l'a vu, là, plusieurs blisters sur tes lèvres et beaucoup de, c'est ça, d'ampoules, comme je disais, aux pieds, des conditions, si je peux dire, de ton corps qui ont été mises à rude épreuve. Comment ça a été de gérer tous ces problèmes physiques-là?
Il faut dire que j'ai abusé mon corps.
Oui, c'est ça. Tu l'as magané.
Oh my God. Et au début, moi, mon problème, c'est que j'essayais d'aller vite, direct. Et donc, évidemment, l'idéal, quand tu commences à sentir un point de chaleur sur ton pied où tu sais qu'il va y avoir une ampoule, tu t'arrêtes. Tu prends un petit break, tu mets du tape, tu fais de quoi? Moi, je me disais, nope, j'ai encore 15 miles à faire aujourd'hui, 30 kilomètres, whatever. J'ai pas le temps. Et donc, je me suis tiré dans le pied à faire ça à la fin. Troisième jour, j'avais 4 ampoules. Quatrième jour, j'en avais 8. Cinquième jour, j'en avais 12. La beauté de pouvoir rentrer aux Sierras après 3 semaines, c'est que la neige m'a ralenti par force. Et le fait que je passais mes journées avec les pieds dans la neige et les pieds mouillés, ça a un peu donné l'effet de glacer des blessures parce que j'ai aussi commencé à avoir du plantar fasciitis dans mon pied. Mais de pouvoir le glacer à journée longue, ça l'a permis de guérir au moins jusqu'à temps que j'avais fini les Sierras. Et on n'a pas encore développé ça dans les épisodes, mais je vais te donner un petit sneak peek. Mes pieds ne sont pas restés bons jusqu'à la fin. Je suis retourné dans les ampoules.
Et je tourné suis... dans les problèmes d'ampoules.
Et ça l'a pas arrêté jusqu'à la fin.
J'imagine aussi que être aussi longtemps, être des mois dans la nature, tu as dû avoir certains problèmes corporels, si on veut, que ce soit parce que tu n'as pas assez dormi, donc des mal de tête, des mal de ventre peut-être à cause des choses que tu as mangées, des problèmes peut-être gastriques, là, diarrhée ou autre. Est-ce que tu as eu de ce genre de problèmes qui t'ont ralenti? Puis si oui, comment tu as été capable de passer au travers? Là?
J'ai définitivement été sleep deprived pendant mon séjour. J'arrivais, je pense que j'ai pas dormi plus que 5 heures par soir. Et quand, quand je marchais 12 à 15 heures par jour, disons que ce n'est pas l'idéal. Donc, j'ai passé la bonne majorité le dernier deux tiers de l'aventure, mais mort, là. Je te dis, j'étais un zombie et je flottais. C'était cruise control, ce qui était vraiment spécial de pouvoir être dans cette situation mentale c'était constamment un challenge de mettre le pied devant l'autre. Quelque chose que j'adore de pouvoir être dans cette situation où tu es la seule personne qui peut t'aider et de vraiment te pousser. Donc, la fatigue était une grosse affaire. Ensuite, la nourriture que tu manges dans les bois, disons, c'est pas nécessairement la même nourriture qu'on mange de notre frigo. C'est des choses qui ne peuvent pas être réfrigérées. C'est des choses que tu achètes avec une faim de fou. Donc, tu n'achètes que de la cochonnerie. Quand tu arrives au magasin, là, tu te dis, OK, bonbons, chips, si c'est des carbohydrates.
Ça prend des calories,
Carbohydrates, c'est des carbohydrates. Donc, oui, en effet, je suis tombé avec la diarrhée, je pense, le quatrième jour. Et j'ai eu de la diarrhée jusqu'au bout. Jusqu'au Canada. Je me suis retiré de t'envoyer des photos des preuves parce que...
T'as bien fait.
Je t'avoue que j'ai pris des photos des endroits où j'ai fait mes besoins qui étaient pas mal grandioses et fantastiques.
Mais c'était messed up, là.
Vous aujourd'hui.
On est maintenant, comme mentionné, on en est au 20e épisode. À la journée 41. Il va y avoir encore plusieurs épisodes qui vont sortir. Là, des épisodes aux quelques jours. Ça se regarde très bien, là, des épisodes de 15 à 30 minutes généralement. Les prises de vue, la narration, c'est extraordinaire comment c'est... Le montage aussi, là, t'es très doué, mais... lorsqu'on regarde ça, on peut pas dire autrement que tu as un talent extraordinaire. Je vais encourager les gens justement à aller consulter la page YouTube Carl Blanchet. Abonnez-vous pour suivre justement toutes les vidéos. Repartez du premier vidéo, ça vaut la peine, ça se regarde bien. On peut en regarder un par jour, un ou deux, trois jours. Ça se regarde bien, ça vaut la peine de rattraper. Là, il n'est pas trop tard. Il va y avoir encore plusieurs vidéos qui vont être publiées. Et je partage ici une photo de toi qui termine la PCT au Canada. Donc, t'es passé au travers. Par contre, on ne dira pas aux gens si tu as réussi ton défi de 90 jours. On va laisser les gens suivre justement ton épopée. Grosse différence aussi, la fin de la traversée de la PCT avec le paysage. Tiens, je vais la remettre à nouveau là, au Mexique, alors que c'est désertique. On termine ça dans les forêts canadiennes.
Surtout la couleur de mon chandail aussi. Si tu...
Oui, c'est vrai. Beaucoup plus pâle.
Je me suis pas rasé une fois du trail pour démontrer le développement physique. Donc,
j'encourage les gens justement à s'abonner à ta page Carl Blanchet, mais aussi, pas seulement pour savoir si tu as réussi ton défi 90 jours, qui serait un exploit vraiment hors du commun, mais juste pour avoir décroché. Moi, c'est ce que ça me permet de décrocher, de regarder ça pour un 15 minutes dans ma journée. C'est une pause où je suis vraiment submergé par la beauté. Des images et par ta narration hors pair, donc ça vaut tellement la peine, c'est vraiment là à ne pas manquer et ça attire l'attention parce que tu as fait une entrevue justement avec la version Colombie-Britannique de Radio-Canada, donc les gens en parlent, t'as été interviewé à Radio-Canada, donc c'est quand même un exploit de renom, mais ça montre que ce que tu as fait, c'est vraiment, vraiment spécial. Et de pouvoir partager avec toi ton aventure par tes vidéos, c'est vraiment une réelle chance. Je voulais savoir aussi, en terminant, si tu avais des prochaines aventures du genre et si on va pouvoir avoir justement faire partie de ton aventure à travers des prochains exploits du genre là, dans les courts ou moyens ou long terme même.
Je veux te remercier pour les super beaux mots envers mes vidéos.
Ça fait plaisir. C'est totalement mérité.
Mais comme prochaines aventures, il y a la possibilité que je retourne sur la Pacific Crest Trail cette année.
OK, wow!
Avec un différent objectif cette fois-ci, de ne pas me pousser comme je me suis fait l'an passé et de vraiment pouvoir en profiter et de ne rien manquer, donc y aller à une vitesse beaucoup moins vite.
Mieux le vivre, autrement dit.
Mieux le vivre, exactement. Donc, je planifie sûrement de faire ça cette année avec ma partenaire Sophie. Donc,
incroyable.
J'adorerais pouvoir partager cette aventure avec elle. À date, il y a des grosses possibilités que j'ai de retourner sur la trail le 22 mai avec l'objectif de faire une vidéo par jour pendant que la trail se développe. Donc, je vais poster en direct chaque fois que j'ai des connexions Internet. Donc, vous allez pouvoir, si ça vous intéresse, suivre cette aventure en direct avec moi. Donc,
un petit peu
qui se passe cette année, qui est très excitant.
Un petit peu plus tard dans la saison, un petit peu plus longtemps, mais de manière un petit peu plus complète, ça nous donne vraiment l'envie. On va suivre ça de manière attentive et entre-temps, bien évidemment, on va continuer à suivre tes aventures. Carl-Éric, ce fut un réel plaisir de partager ce 100e épisode-là avec toi. Ça a été, je ne vais pas me répéter, mais c'est extraordinaire ce que tu présentes sur ta page YouTube. Donc, encore une fois, j'encourage tout le monde à aller s'abonner, à suivre cette aventure-là. Et ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir pour moi de pouvoir partager ton aventure avec les auditeurs du temps d'arrêt, là.
Bien, merci tellement, Étienne. Merci à vous, tous qui écoutent. Moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir être ici et de passer du temps ensemble et de pouvoir en parler. Donc, gros merci à tous et j'espère pouvoir vous voir sur ma chaîne pour continuer l'aventure.
Définitivement. Puis, c'est le 100e épisode. Ce n'est pas du tout le dernier. L'aventure continue. On reviendra à une formule un petit peu plus sportive pour les prochaines. Mais ce fut vraiment très, très agréable de partager un épisode de cette manière-là avec vous. Et si vous l'avez écouté par version audio, ça vaut la peine d'aller voir ça par YouTube avec les vidéos et les photos qui ont été partagées. Et je vous dis un gros, gros merci d'avoir été là. Un gros merci encore une fois à mon ami Carl-Éric Blanchet. Puis on se dit là, à un prochain épisode du Temps d'arrêt.